la mode, jour 3, avec notre psychiatre préférée, Caroline Depeuille. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Bon, c'est un titre qu'on a toujours besoin d'expliquer un petit peu, hein, oui. Diagnostic psy à la mode. Disons que certains diagnostics sont devenus particulièrement populaires ces dernières années. Ils suscitent de l'intérêt, des interrogations. Parfois, on se reconnaît hein, même dans certaines de leurs caractéristiques. Voilà pourquoi on a décidé d'en parler cette semaine. Et aujourd'hui, on va aborder l'autisme avec vous, Caroline. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Vous allez bien sûr nous l'expliquer, mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler, c'est quoi l'autisme?
Eh bien, on parle dans notre jargon de troubles du spectre de l'autisme ou de troubles du spectre autistique. Alors, tous les mots de cette définition sont importants. Premièrement, c'est un trouble. Ça veut dire que c'est une altération du fonctionnement d'un individu. Ça va affecter son bien-être, son comportement, ses interactions sociales. Ensuite, il est qualifié de spectre. Alors ça, c'est parce qu'il existe une grande variabilité dans la façon dont il se manifeste. Certains individus autistes ont de légères difficultés dans des contextes sociaux, tandis que d'autres peuvent avoir des besoins importants d'accompagnement au quotidien. Et c'est la même chose pour les capacités intellectuelles. Certains ont un déficit important, tandis que pour d'autres, l'intelligence est conservée, voire même dotée d'un haut potentiel. Et puis enfin, le dernier terme, autisme, ça définit une condition neurodéveloppementale, donc c'est le développement du cerveau au plus jeune âge qui a des difficultés, et ça va influencer plusieurs domaines clés du développement, comme la communication.
Et comment est-ce qu'on diagnostique de l'autisme chez quelqu'un?
Alors c'est un diagnostic clinique, et on voit deux grands types de symptômes. Premièrement, des difficultés dans la communication et les interactions sociales, les échanges, les contacts, tout le décodage de la communication verbale et non verbale, ce qui semble évident pour nous, ça reste un défi majeur pour la personne autiste. Et puis deuxième type de symptômes, on remarque la présence d'intérêts restreints et de comportements répétitifs. Alors pour ça, les rituels sont très importants et la personne, elle peut développer un intérêt intense et focalisé sur un sujet précis qui peut être très variable, comme les horaires de train, le football ou encore plein d'autres.
Dans tous les domaines, c'est possible. Est-ce que c'est fréquent comme trouble?
On estime qu'environ un enfant sur 150 est atteint d'autisme. Donc
je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas ça, quand même.
C'est un peu moins d'1%.
Oui, c'est vrai, oui, dit comme ça.
Donc, mais c'est plus d'un pour
mille. C'est pas rien quand même.
Donc c'est quand même un enfant sur 150. On peut imaginer que dans 5 classes de réto, vous aurez là-dedans au moins un enfant autiste.
Oui, c'est dingue, c'est
vrai.
Donc
quand même, c'est pas si peu. Mm-hmm. Alors parmi ces 105, ces enfants, 50% auraient un déficit intellectuel, tandis que 50% ont des capacités intellectuelles préservées. Mais bien sûr, comme il s'agit d'un spectre, on l'a dit, toutes ces personnes, elles vont se disperser sur un continuum qui va de l'absence totale de communication avec un retard mental jusqu'à un haut potentiel intellectuel qu'on appelle aussi le syndrome d'Asperger. En fait, on peut presque dire qu'il y a autant de types d'autisme que de personnes autistes.
Vous parlez du syndrome d'Asperger, c'est quoi ça?
Alors, le syndrome d'Asperger, c'était historiquement une sous-catégorie de l'autisme qui décrit des individus qui présentent ces traits autistiques mais sans retard de langage ni de déficience intellectuelle significative. Parfois même, ils ont une intelligence supérieure à la moyenne. Si vous voulez des petites refs de films, l'image stéréotypée, c'est le film Rain Man.
Ouais, bien sûr.
Où il y a encore Big Bang Theory avec Sheldon, qui est autiste. Et il y a une très bonne série qui est peut-être un peu moins connue, mais que je vous conseille, qui s'appelle Atypical.
Je ne l'ai pas regardée, mais j'en ai entendu parler.
Beaucoup d'humour, mais beaucoup aussi de sensibilité sur le sujet. Alors, il faut dire qu'on n'utilise plus ce terme actuellement, Asperger, parce qu'il est assez controversé. En fait, le médecin autrichien qui a donné son nom à cette condition en 1944, qui s'appelle donc Hans Asperger, on s'en doutait, il a eu des liens avec des politiques eugénistes nazies. Donc maintenant, on évite et on parle plutôt d'autisme de haut niveau. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'individus, enfin il y en a pas mal en tout cas, qui s'autodiagnostiquent actuellement autiste de haut niveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sentent différents des autres dans leurs relations sociales. Ils ont du mal à comprendre les codes sociaux, à maintenir des amitiés, à s'intégrer dans des groupes. Et pourtant, leurs capacités intellectuelles, elles sont, elles, tout à fait préservées. C'est important de dire que dans ce cas, il faut aller faire confirmer ce diagnostic par un professionnel. Et c'est pas l'idée de s'enfermer dans une case, mais c'est plutôt de mieux apprendre à se connaître avec tout son potentiel et ses limites.
Et est-ce qu'il existe un traitement? Est-ce qu'on peut guérir de l'autisme, par exemple?
Alors, il n'existe pas de remède à l'autisme parce qu'en fait, c'est pas vraiment une maladie à proprement parler, puisqu'en fait, c'est une neurodivergence, c'est une différence neurologique. Par contre, et c'est important de le dire, des interventions, et plus elles sont précoces, mieux c'est, peuvent permettre de considérablement améliorer toutes les compétences sociales. Il y a des approches éducatives, on peut améliorer la communication et l'autonomie. Et là, l'objectif, c'est pas de changer la personne autiste, mais c'est plutôt de l'aider à mieux interagir avec son environnement et à s'épanouir selon ses capacités. L'entourage, lui aussi, il doit apprendre à s'adapter aux particularités de la personne autiste, et donc ça va dans les deux sens.
Effectivement, et pour finir, est-ce qu'il existe des dimensions positives dans le fait d'être autiste? Ça, c'est intéressant aussi.
Oui, mm-hmm. Et moi, je trouve que c'est important de le souligner également, même si il ne faut pas minimiser les difficultés. Non. Beaucoup de personnes autistes, en fait, elles ont des forces spécifiques. Elles ont une grande capacité d'attention aux détails, elles ont une mémoire exceptionnelle, ou alors elles ont une pensée originale, voire même disruptive. Et en fait, ces qualités, ça peut être des atouts précieux dans certains domaines, les mathématiques, les sciences, les arts. Moi, j'aime bien donner le concept de neurodiversité. Et c'est un peu comme la biodiversité dans la nature, hein, il faut tout pour faire un monde. Et bien la neurodiversité, ça souligne que les différences neurologiques, comme l'autisme ou le TDAH dont on a parlé, bah, ça fait partie de la diversité humaine et ça ne doit pas être considéré uniquement comme des handicaps. Il y en a même qui posent l'hypothèse évolutionniste, que donc dans l'évolution, les gènes de l'autisme se sont persistés et se transmettent parce qu'ils ont cette utilité spécifique.
Donc, c'est super intéressant. Ouais, carrément, super intéressant. Je sais qu'il y a aussi des classes hein, à l'école qui sont, je ne vais pas dire dédiées aux personnes autistes, mais il y a de plus en plus d'inclusion d'enfants autistes dans les classes. J'aime pas utiliser le mot normal parce que, bon, qu'est-ce que
mais
la normalité
en général, et oui, c'est ça. Justement essayer de les inclure.
C'est super important aussi et super intéressant. Franchement, il faut saluer le travail de tous ces profs
oui,
hein, qui font ce travail d'inclusion. Merci à vous, Caroline Depeut, de nous avoir accompagnés.